OK, on va commencer notre 40e leçon. On est déjà à la 40e. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la personne de Christ comme chef de l'Alliance pour ses élus. Donc, on a déjà vu au cours des leçons précédentes que le Christ soutient plusieurs offices, plusieurs relations et plusieurs caractères dans l'Alliance de grâce. Dans les Écritures, on le déclare, par exemple, chef suprême de l'Église. Dans Éphésiens 1, versets 22-23, on lit « Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Nous avons exactement la même idée aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. » Alors, dans les Écritures, on nous compare souvent, nous, les élus, les croyants, comme étant les membres du corps de Christ, et on dit de Christ qu'il est, lui, la tête. Alors, lui, il est la tête, nous sommes les membres. Dans Colossiens 1, verset 18, ça dit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc, on pourrait diviser le terme « tête » en différentes sections ou définitions différentes. Il est la tête, mais il est la tête qu'on pourrait dire naturelle. Donc, la partie supérieure, celle qui communique la vie, qui contrôle le corps, les sens, lui donne de se mouvoir, surveille et protège. Dans le fond, notre tête, c'est ça qu'elle fait. C'est la partie supérieure, elle communique, elle contrôle le corps, les sens, donne le pouvoir de se mouvoir et surveille et protège. Donc, c'est la tête naturelle du corps spirituel. Ça dit dans Éphésiens 4, versets 15 et 16, « Mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Donc, il est vraiment la tête et lui contrôle tout ce qui est, toutes les parties de son corps qui est nous. Et il, comme ça dit, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Colossiens 2, verset 19, « Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Encore, c'est encore la même idée que Dieu, Jésus est la tête, et à cause du fait qu'il contrôle tout ce qui est son corps, donc toutes les parties, on nous compare, chacun des croyants, à une partie du corps. On n'a pas la même partie, comme on a vu dans les dons spirituels. Certains, c'est la vue, l'autre, c'est l'ouïe, un autre, c'est les mains, l'autre, c'est les pieds. Mais il n'y a pas une partie qui n'est pas importante. Si on n'a pas nos pieds, ça ne va pas bien. Si on n'a pas nos yeux, ça ne va pas bien. Si on n'a pas nos oreilles, ça ne va pas bien. Le corps a besoin, la tête a besoin de toutes les parties du corps. Exactement la même chose dans le monde spirituel. Maintenant, si on peut dire de Christ qu'il est la tête naturelle, on peut aussi dire de lui qu'il est la tête politique. Dans ce sens qu'il est le roi sur ses sujets, qui sont les croyants. Il est aussi le général en chef de son armée. Et dans les Écritures, souvent, on compare les croyants à des soldats. Alors, si on est des soldats, lui est le général en chef, il est aussi le roi sur ses sujets. On lit par exemple dans Apocalypse 19, versets 11 à 14. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alors, c'est sûr que dans le contexte, si on nous parle de Jésus qui vient, il est à la tête et il est comme un général d'armée. C'est lui qui commande chacun des membres de l'armée. Il est aussi le roi et nous sommes ses sujets. Aussi, on peut parler de tête économique. Une tête économique, c'est comme l'autorité du mari sur sa femme, ou comme celui du maître sur ses serviteurs, ou comme celui du père sur sa famille. Alors, dans Matthieu 23, verset 10, le Seigneur dit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Donc, le premier point qu'on va regarder, c'est Christ comme représentant ses élus dans cette alliance-là. Christ représentait ses élus dans l'alliance de grâce. Les élus étaient représentés et considérés en lui. Ce à quoi il s'est engagé et ce qu'il a souffert n'était pas seulement à leur compte, mais accompli substitutivement, à leur place. On l'a expliqué maintes et maintes fois dans les sermons le dimanche. Le Seigneur, dès l'alliance de grâce dans l'éternité, s'était engagé à faire des choses et il le faisait substitutivement. Donc, il le faisait à notre place. Il a à la fois subi le châtiment qui nous était dû à notre place. Donc, il s'est substitué à nous pour faire cette chose. Et la même chose pour la question de l'accomplissement de la loi. Donc, le Seigneur nous demandait d'avoir parfaitement obéi, sans avoir manqué une seule fois, au décalogue, aux 10 commandements, à sa loi. Et lui, il a accepté dès l'éternité, dans l'alliance de grâce, d'accomplir ce que nous savons que nous n'avons pas été capables de faire par nous-mêmes. Tout ce qu'il a reçu pour accomplir l'alliance, à la fois les promesses et les bénédictions, furent non seulement pour eux, mais il les a reçus comme les personnifiant, comme personnifiant ses élus. Éphésiens 1, verset 22, « Il a mis tout sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Donc, Christ fut considéré dans l'élection. Éphésiens 1, verset 4 à 6. Bien important de réaliser que toutes les choses qui avaient été décidées d'avance dans l'Alliance ont été prises comme décision dans l'éternité, alors même que nous n'existions pas encore physiquement. S'ils pensaient à nous, dans l'éternité, nous, on était loin d'être encore au monde physiquement. Ça nous dit dans Éphésiens 1, verset 4 à 6, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Donc, l'autre point qu'on va regarder, c'est que l'alliance avec Christ a été faite à titre de notre chef ou de notre tête et de notre représentant. Dans Galates 3:16, ça nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités au pluriel », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors, bien important de réaliser ce que toutes les promesses que le Seigneur a fait à Abraham, dans le sens qu'il lui disait qu'il était pour avoir des personnes qui connaîtraient le Messie plus tard, ça disait que ça avait été fait à lui et à sa postérité. Et sa postérité, c'est pas nécessairement ses enfants physiques, les descendants physiques d'Abraham, mais sa postérité, ça le dit dans Galates 3:16, c'était Christ. Alors, si on est en Christ, les promesses ont été faites à Abraham, mais ça concernait la personne de Christ. Parce que le verset, les promesses de Dieu à Abraham dans l'Ancien Testament, dans Genèse, on a ici l'interprétation par le Nouveau Testament. Je le répète encore, Galates 3:16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », avec, au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Autre point que nous allons examiner, les promesses de la grâce et de gloire faites aux élus de Dieu dans l'Alliance leur furent faites, étant considérées en Christ leur chef et représentant. Donc, les promesses qui ont été faites de la part de Dieu à Jésus, nous concernant, avaient été faites à Christ comme étant notre représentant, notre chef. Tite 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, chapitre, verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Alors, c'est vraiment l'idée de comprendre que les promesses que Dieu faisait à Christ, il les faisait comme notre chef, comme notre représentant. 2 Timothée 1, verset 9. « Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'état éternel. » Éphésiens 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Autre point, Christ s'est engagé, au nom de son peuple, d'obéir et de souffrir à leur place. Donc, la fameuse œuvre de substitution, en théologie, des fois, on va utiliser le mot vicarial, qui veut dire remplacer. Il a remplacé ses élus à la fois pour leur punition, et il a remplacé ses élus à la fois pour l'obéissance qu'ils devaient à Dieu et qu'aucun d'entre eux ne pouvait faire parfaitement. Christ a fait parfaitement les deux. Donc, il était notre tête, et quand il est venu sur la terre, il a accompli les deux choses. Romains 8, versets 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui y croient. La fin de la loi est en train de dire que l'être humain ne peut pas gagner son salut en obéissant parfaitement à la loi parce qu'il en est incapable. Christ est la fin de la loi, c'est que ça veut dire que lui, vu qu'il en était capable, nous rendait, nous, on n'était plus attachés à faire ces choses. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Moi, je trouve que ce verset-là, 2 Corinthiens 5, 21, vient résumer parfaitement l'œuvre de Christ qui est en deux parties. Ça dit « celui qui n'a point connu le péché ». Celui qui n'a point connu le péché, c'est Christ. Il l'a fait devenir péché pour nous. Le Père l'a fait devenir péché pour nous et il a jugé nos péchés sur lui. Pas ceux du Christ, parce qu'il était impeccable, sans péché, saint, sans souillure. Et afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est qu'après que nos péchés ont été jugés sur la personne de Christ, le Seigneur pouvait prendre maintenant la justice de Christ, la parfaite obéissance qu'il avait eue durant toute sa vie en pensée, en parole, en action, il n'avait jamais eu aucun péché d'omission. Il pouvait la mettre sur notre compte. Si on comprenait vraiment ce que ça veut dire, on jubilerait de joie. On comprend, mais on a besoin de méditer encore ces choses-là. Autre point, Christ a ressuscité non comme personne privée, mais comme personne publique, étant la tête et le représentant pour qui il a obéi et souffert. Quand il a ressuscité, puisque nous étions en lui, lorsqu'il ressuscitait, nous ressuscitions aussi en lui. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il parle à des chrétiens, puis il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, le verset nous enseigne que si vous êtes ressuscité avec Christ, donc quand Christ est ressuscité, étant notre tête, nous étions en lui, et lorsqu'il est ressuscité, c'est dans le fond notre résurrection spirituelle qui s'accomplissait par la même occasion. Éphésiens 2, versets 5 et 6, « Nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il faut bien saisir l'image. Christ est venu sur la terre, il a subi notre châtiment à notre place et il a obéi à la loi et après ça a été transféré sur notre compte. Mais ça dit que quand le Père a ressuscité Jésus-Christ, il nous a ressuscités par la même occasion et il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Et spirituellement, ça veut dire que le travail qu'il avait accompli est déjà accompli et notre salut est assuré parce que il est déjà au ciel et que lorsqu'il a ressuscité, nous avons en quelque sorte ressuscité en lui spirituellement. C'est pour ça qu'on parle d'une ancre, nous avons une ancre dans la personne même de Christ, qui est déjà rendu au ciel. Et le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu vient signifier que l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire est complètement terminée et nous sommes en lui. C'est bien intéressant de saisir ces versets-là. Il nous a ressuscités ensemble. Quand Christ est ressuscité, on était en lui. Lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il est assis à la droite du Père, son œuvre est tellement bien faite, est tellement bien réalisée que nous sommes déjà en lui. C'est pour ça que le salut, c'est quelque chose qui ne s'opère pas parce que c'est Christ qui l'a accompli et lorsqu'il a ressuscité, nous ressuscitions en lui, spirituellement. Il est sûr qu'un jour, on va mourir physiquement et qu'on va connaître la résurrection physique. Là, on parle en quelque sorte d'une résurrection spirituelle. On est en lui et lui est déjà rendu au ciel. Et l'œuvre qu'il avait à faire, prendre notre punition, puis accomplir la loi, c'est déjà fait, il est assis. Le fait de s'asseoir dans les Écritures, ça veut souvent dire que l'œuvre est terminée. Alors l'œuvre de rédemption concernant ses élus est terminée et c'est le fait qu'il est ressuscité et que nous sommes ressuscités en lui qui nous donne une garantie. Très important de saisir ça parce que quand on comprend ça, là, on comprend mieux tout ce qui concerne le salut. Autre point, Christ est la tête et le représentant fédéral des siens, les élus, comme Adam était des siens, sa descendance naturelle. Quand Adam est tombé, les Écritures nous disent que nous étions tous en lui. Lorsqu'il a chuté, c'était l'humanité entière qui chutait avec lui. À partir de sa chute, l'homme qui naît d'un homme et d'une femme naît automatiquement de par sa naissance même. Même plus loin, David dit « dès le ventre de ma mère ». Il n'était même pas encore né et il dit « j'étais déjà pécheur ». Quand on vit au monde, on est pécheur à cause de la faute d'Adam. Et dans les Écritures, on parle d'un second Adam. Et le second Adam, c'est la personne de Jésus le Christ. Alors, Romains 5, 14 nous dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam. » Là, on parle du Adam, le premier Adam, le premier homme, jusqu'à Moïse. « Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Lequel est la figure de celui qui devait venir. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47, vient venir nous parler du deuxième Adam. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quand il parle du dernier Adam, il parle de la personne même de Jésus-Christ. Donc, le premier Adam, c'est le premier homme qui s'appelait Adam. Et dans les Écritures, on parle du deuxième Adam, et c'est la personne de Christ. Alors, de la même manière qu'on a tombé dans la personne de Christ, de la même manière, nous sommes sauvés à cause du deuxième Adam. C'est ça que ça dit. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alors, on parle de Christ. Il dit le premier était terrestre, le deuxième est du ciel, il est céleste. Alors, de la même manière que nous avons chuté en lui, le premier Adam, le premier homme, de la même manière nous sommes sauvés à cause du second Adam, parce que nous sommes encore dans le second Adam. Christ est donc chef suprême de l'Église, des anges, des hommes et des choses. Il a tout pouvoir pour protéger et défendre son peuple. Il pourvoit pour eux à tous leurs besoins et par de nombreuses grâces. Le gouvernement de l'Église et du monde sont sur ses épaules. Matthieu 11, 27, le Seigneur dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jean 3, verset 35, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » Alors, sûrement que la principale application, la principale chose à intégrer dans nos vies face à la leçon qu'on voit aujourd'hui, c'est de constater que Christ est notre forteresse, il est aussi notre protecteur, il est aussi notre sécurité absolue, immuable et glorieuse. Gloire à Christ.
Amen.